Hey, bonjour, bienvenue à Éclectique. Éclectique épisode 77. Je sais plus, je me mêle tout le temps dans mes épisodes. Je pense que c'est 77, mais on verra. Pour la petite info, je suis en train de faire un test pour les gens du Patreon avec Twitch Studio Beta, qui est une application où je peux enregistrer et je peux aussi diffuser. Alors là, présentement, j'utilise la fonctionnalité d'enregistrement. On va voir ce que ça donne. On va débuter tout de suite. Je fais ça un petit peu à l'arrache parce que je vous explique. Je veux cette saison-ci faire plus de relife, plus m'impliquer dans relife. Alors c'est sûr que Éclectique va pâtir. Peut-être que si j'ai tout dépendant des commentaires, je sais que ceux qui me suivent sur Patreon, c'est pour tout ce que je fais en général. Alors c'est pas nécessairement juste pour relife, mais si vous aimez relife. C'est pas nécessairement juste pour Éclectique, mais si vous aimez Éclectique, en fait, le contenu, dites-vous que Relive, c'est mille fois mieux, parce que il y a tout d'abord un super communicateur en tant que Guillaume, et on va commencer tout de suite avec l'enregistrement, c'est ça, d'Éclectique 77. Je vous ai pris quelques petites infos, ça sera pas un Éclectique très très long. Mais au moins, il sera fait pour le mois d'août. C'est pas une corvée, j'aime ça, mais le format que je vais faire sur Patreon, je pense qu'il va plaire un petit peu plus dans le contexte. Alors, je vais essayer. Pour cette fois-ci, j'essaye un éclectique vidéo en même temps que j'enregistre audio. Alors, je vais faire attention de décrire quand même ce que je vois à l'écran. Et aussi, à l'avenir, j'aimerais ça basculer sur Twitch et peut-être avoir les deux, Twitch en direct, et essayer d'habituer les gens à venir nous rejoindre. Pareil pour Relive, j'aimerais ça aussi basculer un jour sur Twitch. Et ou autre si affinité, on verra. On débute maintenant l'émission. Alors, pour l'émission, je vous ai préparé une petite réflexion sur Facebook. J'aime avoir ce genre de réflexion-là sur Facebook. Facebook est gros, qui est incontournable. Il y a plusieurs milliards de personnes sur la planète qui ont Internet, et il y a un fort pourcentage de ces personnes-là qui sont ou qui ont un compte de médias sociaux. Et évidemment, là-dedans encore, on sous-divise qui ont un compte Facebook. Alors, on va en parler. Quelque chose qui me tient à cœur, on va en parler aussi, c'est la langue française, et j'ai trouvé bitoduc.fr, les termes informatiques en français, c'est juste fabuleux. Je vais vous en lire quelques-uns. Bitoduc.fr. Ensuite de ça, dans mes notes, j'ai attendez voir, parce que là j'ai cliqué et je vois plus mes notes. Mes notes, où sont-elles? Là, voilà. Alors, je vais avoir une boute de réflexion encore une fois. Je vais beaucoup parler des complotistes, des théories du complot et de toutes ces choses-là pendant cette émission. Alors, si vous aimez pas ça, si vous en êtes gavé, peut-être switcher à la prochaine émission. Mais là, on va avoir un petit 2 minutes sur Twitter en vidéo, en audio, en fait. Pour ceux qui seront en format vidéo, vous le verrez aussi en même temps. C'était Étienne Klein qui était invité à Pujadas et qui expliquait que il y a vraiment, vraiment une crainte, en tous les cas pour les Français, d'après ce qu'il dit, de dire qu'on ne sait pas. Et c'est assez symptomatique, je pense, de beaucoup de personnes, d'avoir crainte de dire qu'on sait pas. On va l'écouter ensemble, cette petite capsule-là. On a aussi, les métiers d'influenceurs, on en parle beaucoup, c'est des métiers. Il y a des nano-influenceurs, il y a toutes sortes d'influenceurs. J'ai trouvé sur Blog du Modérateur, combien ils gagnent dans leur vie. Peut-être c'est un métier que vous aimeriez faire, que ce soit YouTube, Instagram, Twitter, Blog... vous allez voir un petit peu de quoi ça parle. On va aussi avoir une étude qui a été relayée par Bruno Guglielminetti sur l'amour qui a été étudié par l'intelligence artificielle et qui nous explique dans le fond ce que l'intelligence artificielle a réussi à comprendre de l'amour. Alors si l'humain n'arrive pas à le faire depuis des années, on va voir On va parler de QAnon. QAnon, le complot contre le gouvernement, en fait, pas le gouvernement, contre Donald Trump. On va parler de l'Ukraine, de masques traçables. Oui, il y a une petite crainte en ce moment qu'il y aurait des puces intégrées directement dans les masques. Et on va c'est vrai, il y a des puces intégrées dans les masques, mais c'est pas forcément pour des raisons de traçage. On va le voir dans l'émission un petit peu plus tard. J'ai aussi quelque chose d'intéressant, une minute et une journée, en fait, une minute sur Internet, qu'est-ce que ça donne? En termes de chiffres, alors on va en parler aussi. Bref, j'ai plein de petits trucs, j'ai pas trop formaté, mais on va y aller comme ça. Alors, on va commencer tout de suite avec 22 alternatives à Facebook. On en parle souvent de Facebook comme étant le grand méchant. L'objet de cet article-là, c'est de trouver des alternatives. Je vais zoomer pour ceux qui me regardent en vidéo. C'est de trouver des alternatives. Il y en a là-dedans que je ne connais pas, mais qui sont intéressantes. Je vais mettre dans les notes de l'émission, évidemment, le lien vers cet article-là. L'idée, c'est de trouver des alternatives et puis de vous éduquer, d'avoir une certaine culture numérique parce que on n'est pas nécessairement obligé d'avoir les produits Facebook. Je me rappelle, fut un temps où, est-ce que tu avais un mail, un courriel? C'était la question. Maintenant, c'est disparu. Je me rappelle aussi d'un temps où, est-ce que tu as un site, un blog, ainsi de suite? Maintenant, c'est disparu. Ça a été remplacé par Messenger, un compte Facebook, ça a été remplacé par une page Facebook. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça dépend vraiment, vraiment de vos objectifs, toujours, par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez en faire. Facebook, ça peut être bon, dans une certaine mesure. Je vous rappelle, moi, mon truc, c'est vraiment super important. Vous n'êtes pas obligé de répondre, de mettre les vraies informations sur Facebook. Et aussi, faites attention aux photos que vous mettez, les configurations publiques, privées. Ça, c'est très important. Alors, dans Facebook, il y a plusieurs applications et il y en a qui tentent d'abandonner Facebook. Alors, un des premiers trucs où on parle souvent d'essayer d'abandonner Facebook, c'est la messagerie. La messagerie, il y en a plusieurs autres messageries que Messenger. Il y a iMessage. Si vous avez un iPhone, si vous êtes chanceux et que vous avez un iPhone, il y a iMessage qui fait très très bien le travail. Alors je vous conseille iMessage pour remplacer Messenger, mais il y en a d'autres. Il y a Telegram, il y a WhatsApp, je vous le conseille pas parce que si vous voulez partir du l'écosystème de Facebook, WhatsApp, Messenger, c'est la même affaire. Alors il y a Telegram qui est une pas pire application que vous pourriez envisager de regarder. Pour tout ce qui est fil d'actualité, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui suivre l'information et l'actualité par Facebook. Malheureusement et heureusement, mais on peut être pris des fois dans une certaine bulle où on reçoit toujours à peu près les mêmes informations ou le même type d'informations. Et des fois, pour être un peu plus sain d'esprit, moi, je vous recommanderais d'autres sources d'informations. Alors, il y a des applications qui se spécialisent là-dedans. Je nomme Flipboard. Flipboard, qui est une application vraiment chouette au niveau des tablettes, mais aussi maintenant des téléphones et des sites web, qui fait une espèce de curation des meilleures sources d'informations sur un sujet donné. Alors, Flipboard, évidemment, c'est un bon truc. Si vous lisez beaucoup d'articles ou de journaux, et ainsi de suite, et que vous n'avez pas le temps de lire les articles, je vous conseille aussi Pocket. Pocket peut être assez intéressant comme source d'informations, parce que vous pouvez aussi apprendre à vous abonner à certains autres feeds sur Pocket et avoir des flux d'informations. Alors ça, c'est assez chouette. Si vous voulez comprendre un peu les tendances et que vous avez un compte Twitter, il y a Nozzle, N-U-Z-Z-E-L, qui est vraiment chouette comme application. En fait, ce que ça fait, c'est que ça se connecte sur votre compte Twitter et ça vous dit dans les 24 dernières heures, 6 heures, 8 heures, les informations qui ont été le plus relayées par vos amis. Et ça peut aussi faire une autre section, c'est ce qui a été relayé par les amis de vos amis. Alors, vous voyez un peu les tendances dans votre cercle à vous, cercle d'intérêt, j'imagine, hein, quand vous vous abonnez à Twitter. Alors, évidemment, je viens de vous parler de Twitter. Twitter est aussi une bonne source d'informations. Alors, il faut trouver les bons comptes qui relayent les informations. Faites attention, des comptes certifiés. Faites attention aux trolls. Généralement, s'il n'y a pas de photos, s'il n'y a pas beaucoup de followers, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pas bon, mais il faut s'en méfier quand même. Alors, pour tout ce qui est information, ces trucs-là, il y a beaucoup, beaucoup d'applications pour ça. Moi, présentement, personnellement, j'utilise beaucoup, beaucoup Twitter et les flux RSS. Alors, les flux RSS, c'est quoi? C'est quelque chose de très, très vieux, qui existait avant qu'on parle de murs, de pages Facebook, je pense même, bien avant même. Dans le fond, chaque petit site fait une copie de son article dans un flux RSS, on va dire ça comme ça. Et le flux RSS, c'est vraiment le squelette, comment on pourrait dire ça? Un flux RSS pour un site, c'est comme un peu l'index du site. Vous pouvez prendre cette adresse d'index-là et le mettre dans un système, un lecteur RSS, et vous pouvez avoir à partir de ce lecteur RSS-là tous les index de tous les sites que vous aimez. Et ça vous fait, vous, pour vous, une veille sur un sujet donné que vous aimez. Alors, vous pouvez avoir des applications directement sur votre PC, sur votre Mac, qui vont prendre tous les RSS et qui vont les mettre ensemble. Vous pouvez avoir des services web. Moi, je vous en propose deux services web. InnoReader, qui est un service web d'agrégation de flux RSS. Alors, InnoReader, que j'ai déjà parlé dans l'Eclectic Show, est très, très bien fait. Même la version gratuite va très bien. Elle est multiplateforme, évidemment. Il y a des versions payantes avec... vous pouvez paramétriser des alertes Google. Vous pouvez paramétriser plein de trucs comme ça. Alors, InnoReader est vraiment chouette. Et il y a aussi Feedly. Feedly pour avoir des RSS sur un sujet donné pour les centraliser dans un système web. Encore une fois, il y a web, application, mobile et ainsi de suite. Alors, Feedly est vraiment chouette aussi pour prendre tous les fils RSS ensemble et les agréger dans un seul et même endroit, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'aller voir un tel autre site. Vous allez directement dans votre agrégateur de fil RSS. Vous avez toutes les actualités. Si vous voulez pas vous casser la tête, Flipboard, les yeux fermés. Et puis, ben, si vous voulez vous casser la tête, réagir ensuite, ben, il y a peut-être plus Twitter que vous allez pouvoir utiliser. Des fois, on aime ça échanger. Les forums, ça existe plus. Non, c'est plus les groupes Facebook, beaucoup de groupes Facebook qui existent. Alors, si vous voulez pas utiliser Facebook, si vous voulez trouver une alternative à Facebook pour les groupes, moi, je vous conseillerais Reddit. Reddit, c'est l'endroit où... J'ai plein de notifications en ce moment, je sais pas si vous les entendez. Reddit, c'est l'endroit, probablement un des plus gros sites aux États-Unis, le plus gros site d'information ou d'échange, tout court. Reddit, R-E-D-D-I-T, qui est vraiment assez chouette en termes de d'échange. Reddit, qu'est-ce que ça fait? Là, on va sur Reddit. Reddit, c'est un endroit où des gens partagent des liens puis échangent sur ce lien-là. C'est tout simplement ça. C'est gratuit. Il y a plusieurs subreddits. Un subreddit, c'est une thématique donnée. Mais si vous allez sur la page d'accueil de Reddit, vous allez voir la page d'accueil où tout ce qui est le plus trending, le plus à la mode en ce moment, et tout ce qui est le plus échangé. Évidemment, c'est très, très anglophone, mais il y a quand même des subreddits, pas mal de subreddits en français, en québécois, en suisse, en belge, pour les Suisses, pour les Belges, pour les Français, il y a quand même beaucoup de subreddits que vous allez pouvoir utiliser. Et l'idée, c'est de vous créer un compte et de vous abonner à tous ces subreddits-là, un peu à l'image des flux RSS que je vous disais tantôt, et ou du Flipboard, et vous allez pouvoir avoir de l'information. Encore une fois, faites attention aux sources que vous utilisez, les comptes que vous suivez. Ce qui est bien dans Reddit, c'est que vous pouvez voter, downvoter, c'est-à-dire voter... donner un point ou retirer un point pour qu'un article ressorte un peu du lot. Alors, si vous aimez échanger, vous allez pouvoir échanger par article. C'est vraiment quand même assez bien fait, Reddit, pour avoir de l'information. Pour ce qui est de... Il y a une application qui vient de sortir ici, en tout cas dans ma région, ça s'appelle Nextdoor, ça s'appelle NEX, la porte d'à côté, on va dire ça comme ça. Et la porte d'à côté, qu'est-ce que c'est? C'est un média social pour les voisins. Faut que quelqu'un dans le quartier ait créé ça, vous pouvez même le créer. Et après ça, ils vont envoyer des... Moi, j'ai reçu une vraie enveloppe physique avec un code, comme de quoi quelqu'un dans le voisinage s'était connecté sur Nextdoor, je me suis connecté et c'est tous mes voisins de ma rue. Alors, on peut voir des quartiers, les régions et ainsi de suite. Si vous avez un intérêt plus social, voisinage, ça peut être intéressant Nextdoor pour échanger aussi de l'information. Pour ce qui est des publicités, hein, on a Marketplace qui marche très très bien pour les petites annonces sur Facebook. Ben Nextdoor a le pendant aussi, ce qui fait que vous allez avoir des petites annonces dans votre quartier, peut-être plus intéressant. Il y a évidemment plusieurs sites français que je ne connais pas. Il y a des petites annonces ici. On a Kijiji, on a eBay. Il y a même des alternatives à Marketplace, mais malgré tout, en tout cas ici, c'est très 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 fort Marketplace, mais beaucoup de fraude, évidemment, popularité, plus de fraudeurs. Faites attention encore une fois, c'est pas évident, hein, je vous dis, faites attention aux sources d'information, faites attention à qui vous magasinez, mais c'est le mot c'est le mot de l'heure en ce moment, faire attention. Bon, pour créer des événements, Facebook c'est chouette, parce que vous avez toutes vos personnes là, mais vous pouvez aussi créer des événements à même d'autres services. Alors moi, je vous propose Doodle. Doodle, ce que ça sert à faire, c'est à se coordonner, à trouver une date pour un événement précis. Alors, si vous vous dites, dans le prochain mois, j'aimerais faire une fête d'anniversaire, vous choisissez les journées où vous êtes disponible, vous envoyez ce sondage-là à tous vos amis. Vous pouvez envoyer le lien dans Facebook, vous pouvez l'envoyer par email, et les gens vont voter. Et vous allez être capable de vous coordonner pour vous trouver une date précise, une heure précise, et un endroit où vous allez pouvoir échanger. Alors, Doodle est vraiment chouette pour ça, pour se coordonner à la place de Facebook événement. Ça peut être une bonne alternative. Évidemment, tout ce qui est photo, je vous avoue que dans l'article, on parle d'autres outils qu'Instagram. Honnêtement, Instagram est incontournable. Sauf que vous pouvez, si vous avez un Android, utiliser Google Photos pour partager ça dans votre cercle d'amis, votre famille, pour ceux qui ont des comptes Google. Évidemment, ça reste toujours assez écosystème-centrique. Alors, une alternative à Instagram pour échanger des photos, je vous dirais Google Photos. Par contre, vous n'avez pas tout l'aspect stories, vous avez pas tout l'aspect social, vous avez pas tout l'aspect artistique, hein, des photos. Et puis, en fait, il y a pas beaucoup de monde qui utilise ça. Alors, je vous dirais, Instagram est quand même incontournable. Vous pouvez créer un compte Instagram sans mettre vos vraies informations, sans même le relier à Facebook, si vous avez peur. Mais je trouve que de vous conseiller autre chose qu'Instagram pour faire de l'Instagram, ça serait un petit peu stupide. Parce qu'on aime ça, toutes les nouveautés, malgré le fait que c'est des nouveautés que Zuckerberg pique à tout le monde, c'est quand même Instagram qui est vraiment chouette en ce moment. Alors, c'est un peu compliqué de vous donner d'autres choses, mais malheureusement, eux autres, dans l'article, il y a des choses, des outils que j'ai pas essayé. Vous irez voir, vous essayerez, mais moi, je vous recommande pas autre chose qu'Instagram, honnêtement. Évidemment, quand vous utilisez Facebook, il va relier votre compte à toutes sortes de trackers, de visites que vous allez faire sur Internet. Moi, je vous conseillerais d'installer des bloqueurs si vous avez crainte d'utiliser Facebook qui vous trace. En plus de pas mettre votre vrai nom, je vous conseillerais aussi peut-être de bloquer dans des outils. Il y a uBlock, il y a toutes sortes d'outils qui bloquent ça, ces petits trackers-là sur tous les sites que vous visitez pour pas que Facebook puisse vous retrouver. Mais c'est quand même assez difficile maintenant de passer à côté de Facebook pour ces choses-là. Ils ont des techniques très, très, très fortes pour s'y retrouver. Pour vous retrouver, en fait. Alors, ça faisait le tour de cet article-là. Je le trouvais assez intéressant à le relayer pour juste avoir la discussion. Oui, Facebook, c'est le mal, mais comme tout outil, quand c'est bien utilisé, et que vous prenez garde, vous faites attention à ce que vous mettez, à ce que vous mettez pas, aux informations que vous échangez, à qui vous parlez. Facebook, ça peut être des bons outils. Il y a des alternatives, faut travailler un petit peu plus fort, mais il y a quand même des alternatives pour beaucoup des fonctionnalités de Facebook. Il y en a quand même des incontournables. Alors, ça faisait le tour de ce que je voulais vous dire pour cet article-là, qui est assez intéressant. Je vous conseille, vous irez voir. Je voulais vous relayer aussi dans Éclectique, un site qui s'appelle bitauduc.fr, les termes informatiques en français. Et alors là, moi, j'ai ri. Il y en a, c'est si vous êtes un peu informaticien, vous connaissez SOAP. SOAP qui est un espèce de protocole d'accès aux objets. Ça a été converti par SAVON. Simple accès vers objets nuageux. Il y a des objets nuageux. Oh oui, il y a des objets nuageux. Passage à l'échelle, scaling. Il y a des égaux portraits, on l'avait déjà entendu. Share web, partagiciel. J'en ai trouvé des savoureux. Tag étiquette. Tablette. Une tablette informatique. C'est pas une tablette en français qu'ils traduisent. Non, c'est une planchette. Yes. Une planchette, un thumbnail, vous savez, les petites miniatures qu'on voit sur des sites d'une photo et quand on clique, on voit la grosse, ben, on traduit ça par imagette. Ouais, ben ouais. Et ça prend des mots français, il y en a qui sont plus drôles que d'autres. Est-ce qu'on s'en trouve un petit laptop pour ordinateur de giron? J'ai rien à dire. C'est de l'art. Rendu à ce niveau-là, c'est de l'art. Je vous conseille impérativement d'aller faire un tour sur ce site-là pour aller rigoler puis échanger avec moi. Là, chose sérieuse, on va aller écouter la petite capsule que je voulais vous faire écouter sur Twitter qui vient du compte Defecator. On comprend un peu l'idée. Quand les médias sont avides de réponses et que la science n'en a pas encore et qu'on ne supporte plus l'idée de ne pas savoir, en résumé, en 2 minutes, écoutez ça, c'est juste fabuleux.
Mais d'abord, je pense qu'il faut distinguer la recherche et la science. La science, c'est des connaissances constituées qui ont été le résultat d'une évolution dans l'histoire des idées qui a fait que les connaissances sont établies. Et la recherche, c'est répondre à des questions dont on ne connaît pas la réponse. Ce qui fait que la science, elle a une sorte d'ambivalence puisqu'elle a à voir à faire, elle a affaire avec la vérité qu'elle prétend découvrir et en même temps avec le doute systématique.
Avant de découvrir la vérité.
Et donc, il y a cette ambivalence. Et pendant la crise du Covid, on a vu en certaines situations qu'on demandait à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion. Ce qui a d'ailleurs, ce qui m'a décidé à faire ce tract, c'est un sondage paru le 5 avril dans Le Parisien. On demande aux Français, est-ce que tel médicament est efficace ou non? À un moment où aucune enquête épidémiologique n'avait conclu. Autrement dit, personne ne connaissait la réponse à cette question. 59% des Français ont répondu oui, 20% ont répondu non, et seulement 21% ont répondu je ne sais pas. Autrement dit, 79% des Français connaissaient la réponse à une question dont personne ne connaissait la réponse.
On parle de l'hydroxychloroquine, évidemment.
Non, pas forcément. N'importe quelle autre question aurait donné le même résultat.
C'est vrai.
Et donc la question, c'est que se passe-t-il? Qu'est-ce qui nous empêche de dire je ne sais pas? Et à mon avis, ça vient du fait qu'il y a un conflit entre deux temporalités. Les chercheurs cherchent, et donc ils ne connaissent pas les réponses aux questions qui se posent, mais on les interroge. Et s'ils disent je ne sais pas, ce qui serait honnête, ils seraient médiatiquement débordés par des gens en sachant moins qu'eux, mais plus sûr d'eux. C'est ce qu'on appelle, avec un terme que j'aime beaucoup, je l'ai appris d'ailleurs pendant la crise, l'ultra-crépidarianisme, qui vient d'une expression latine qui dit « le cordonnier doit s'arrêter à sa chaussure », enfin à la chaussure.
Sauf que le système médiatique encourage les discours catégoriques.
Les gens parlent au-delà de ce qu'ils savent, avec une assurance qui est proportionnelle à leur incompétence.
Ah, mais moi, la question...
Or, pour savoir qu'on est incompétent, il faut être compétent.
Voilà, ça dit tout. C'est juste fabuleux. Cette règle-là s'applique dans beaucoup de domaines. Ici au Québec, c'est on dit que le savoir, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étend, hein, comme sur une tartine. Alors c'est un peu ça. J'ai pas de mots pour vous dire à quel point c'est génialissime son texte. Et on va switcher tout de suite aux prochaines actualités que je vous ai sélectionnées. Influenceur, si vous voulez, je vais switcher, mais vous allez voir, je vais revenir quand même au complotiste, vous allez voir rapidement. Influenceur, si vous voulez devenir influenceur, blog du modérateur, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça vaut vraiment ce que ça vaut. À classer, et je savais pas, mais il y a plusieurs types de modérateurs, d'influenceurs. Visiblement, j'en suis un, je suis un nano, on l'est tous un peu nano-influenceur. C'est d'ailleurs pour ça, quand on partage des choses entre nous, qu'il faut vraiment encore plus faire attention, parce qu'on influence à certaines mesures des trucs. Alors, vous avez les tarifs un peu, si vous êtes, si vous voulez en tirer, en faire votre métier, ben vous allez pouvoir tout simplement savoir les tarifs. Alors, typiquement, quand vous êtes un nano-influenceur de 0 à 10 000 abonnés, sur Instagram, un post, ça peut valoir entre 0 et 120 $ euros. Une story, ça peut être 0 et 60 euros. Sur Twitter, un tweet, ça peut être 0 à 50 euros. Ça peut aller jusqu'à 100 euros sur Facebook, 100 euros sur Snapchat et 2000 euros sur YouTube. Et vous irez voir dans les notes de l'émission, ça va jusqu'à évidemment 45 000 à plusieurs centaines de milliers pour YouTube lorsqu'on est à 3 millions d'abonnés et plus. Alors, vous comprenez maintenant l'intérêt d'avoir des communautés, d'avoir des influenceurs, pourquoi c'est un métier, ils font de la business. J'ai rien contre ça, c'est bien parfait. C'est un nouveau métier qui arrive avec le numérique, puis c'est cool. Mais l'enjeu en arrière de ça, c'est d'avoir la bonne information, de la relayer, d'être bienveillant. Et ben c'est pas tous les influenceurs évidemment qui le font, mais de toute façon ils se font assez rattraper vite par des YouTube de ce monde ou des Facebook qui les bannissent. Alors juste d'être vigilant et ben de le faire, mais en cherchant bien, en fouillant bien, en ayant les bonnes sources. On va continuer toujours dans la bienveillance et dans ce que je vous ai relayé. Bruno Guglielminetti, je vais vous le mettre dans le directement dans les notes. C'est un article qui vient de lebigdata.fr qui a analysé, je vous le fais assez vite là, mais une intelligence artificielle a analysé 11 000 données, 11 000 couples, des données de 11 000 couples. Et on en est sorti avec la recette de l'amour. Vous savez, il y avait un film comme ça, je pense que c'était Robot of Love, un truc comme ça. C'était Disney. C'était un robot qui associait des personnes ensemble pour l'amour. Ben là, l'intelligence artificielle a conclu que, en résumé, la personne que nous choisissons n'est pas si importante par rapport à la relation que nous développons. De même que la dynamique que vous développez avec quelqu'un, les expériences partagées, les habitudes sont bien plus importantes que les individus séparés qui forment cette relation. Alors, encore une fois, c'est pas la personne qui dans un couple. Je veux le faire vite, je devrais pas. On y reviendra mieux probablement dans un real life avec Guillaume. Mais dans un couple, c'est pas les individus, c'est le couple. C'est les événements, c'est les situations, c'est les souvenirs, c'est ça qui est important. Et quand vous accordez de l'importance à ça, semblerait, de par cet article-là, que vous êtes censé, en tous les cas, vous avez plus de chances de former un couple pour bien longtemps. Là, on va aller dans la conspiration. Je vous en ai parlé au début de l'émission. Il reste à peu près 5 minutes d'émission. On va le faire vite. Tout ça vient de conspiracywatch.info. Une super belle infolette que vous pouvez recevoir qui dégomme complètement certaines théories du complot, qui analyse aussi des événements comme la première des actualités parle de QAnon. QAnon, je vous conseille d'aller lire là-dessus sur Wikipédia, une bonne source qui explique c'est quoi QAnon, QAnon, qui est Anon pour anonyme, qui est... une théorie ou une personne qui, dans l'ombre, expliquerait qu'il y a des complots contre le président Trump. D'aucuns diront que j'espère qu'il y en a contre, mais il n'y en a même pas des complots. Moi, je suis un peu contre, des fois, ce qu'il dit, beaucoup même. Et ben, ils ont analysé que depuis la COVID, selon une étude sur qui a été fait à partir de QAnon. Selon une récente étude, la popularité des groupes de conspirationnistes faisant la promotion de la théorie du complot QAnon a explosé sur Facebook et Instagram depuis le début du confinement. On voit les graphiques, c'est assez incroyable. Les partages d'annonces ont explosé. Évidemment, les gens étaient peut-être plus connectés. Alors, probablement, peut-être plus relayés. Mais c'est juste délirant. On voit très bien, à partir du confinement, que là, ça explose. Pas étonnant qu'on se retrouve maintenant avec toutes sortes de théories du complot contre les masques, toutes sortes de théories du complot contre les vaccins. C'est assez pathétique, mais j'écoutais un psychologue et un scientifique qui disait que avant le confinement, au début du confinement, certaines personnes ont commencé à aller fouiller là-dessus. Se sont trouvés des groupes sur lesquels ils pouvaient échanger sur ces sujets-là vraiment mauvais, malsains. Et le fait de déconfiner, ils se sont trouvés des groupes d'amis qui les ressemblent. C'est pour ça qu'il y a des manifestations anti-masques. Il y a des manifestations de toutes sortes maintenant au Québec, depuis le déconfinement. Il y en a toujours eu, mais sur des choses ahurissantes comme les antennes 5G. Sur le masque, en fait, vous les connaissez, mais c'est ça, le psychologue disait que ils se sont trouvés des centres d'intérêt numérique, les gens se sont regroupés en numérique, mais après le déconfinement, ils se sont trouvés des groupes d'amis, puis là ils sont tissés serrés. Ça va être difficile de les faire éclater, ces groupes-là, et faut le faire avec parcimonie. Et même des fois, dans vos familles, dans vos amis proches, il y en a qui croient des choses qu'il faut démonter, mais avec bienveillance, expliquer. C'est pas facile. On est vraiment dans un monde où c'est pas facile. La progression, la popularité des groupes du compte pro-QAnon sur Facebook et Instagram, il est à souligner que ceux qui ont rejoint les groupes d'extrémistes, quels qu'ils soient, seraient 64% à le faire à partir d'une recommandation d'algorithme. C'est là où c'est un peu dangereux, les algorithmes. C'est que ça vous présente des trucs que vous aimez ou que vous allez probablement aimer, et vous êtes comme enfermé dans une boucle. Alors, on va pouvoir en parler de ça. J'entends quoi? J'entends ma montre. Un instant! Oh! Hey, je fais vraiment ça à l'arrache. Tout le monde, j'entends ma montre, on va l'arrêter. Parce que c'est quoi? C'est l'heure de sortir la lasagne du four. Alors, je vais terminer mes actualités rapidement, puis on va se laisser là-dessus. Je vais arrêter l'actualité sur ce texte-là. En fait, je vous expliquais que c'est les algorithmes. 64% viennent des algorithmes. Après avoir aidé à amplifier cette théorie complotiste, Facebook envisage aujourd'hui de réduire la visibilité de cette communauté. Même que certaines fois, ils l'ont fermé. Selon le site de la chaîne américaine NBC, qui a eu accès à des documents internes et a pu parler à deux employés de Facebook, ces milieux et ces groupes de pages rassembleraient des centaines de milliers, voire des millions d'adeptes de cette théorie complotiste par rapport à QAnon. Allez voir pour vrai QAnon. L'histoire sur Wikipédia, c'est vraiment, vraiment chouette. Ça vient du Pizzagate, si vous intéresse, là, si vous aimez les complots, là, puis lire là-dessus, avec bienveillance, pour comprendre, allez voir ça. Les masques traçables. Oui. Le bruit agite depuis plusieurs semaines dans le milieu des complotistes. Je vais vous mettre l'actualité. C'était dans Le Parisien. Des puces seraient insérées dans certains masques de protection contre la COVID-19. C'est une invention folle? Eh bien non. C'est un délire sans fondement? Non. Eh bien non. Car certains modèles sont bien dotés d'une puce, mais elles sont là pour pouvoir, mais elles sont pas là pour les espionner. C'est pour que le fabricant utilise une technologie qui sert à connaître le nombre de lavages effectués d'un masque réutilisable. Alors il y a ça, puis il y a aussi beaucoup de magasins de vêtements qui mettent des espèces de puces, souvent des puces NFC, pour que les vêtements soient traçables, pour savoir où est le vêtement dans le magasin. C'est des raisons de marketing, c'est des raisons d'usage, mais c'est pas des raisons d'espionnage. À vous de voir. Est-ce que je voulais vous parler de naturopathie, de complotisme? Je vais me le garder pour une autre fois. Faut que j'aille sortir ma lasagne. Il reste plus que 2 minutes. Elle va être carbonisée. Ma copine va pas être contente. Et une affaire, je voulais vous parler une minute sur Internet en 2020. Ce que ça représente, c'est une infographie. Je vais le mettre dans les actualités. En gros, une minute, en ce moment, en 2020, c'est 1,39 million d'appels vocaux et vidéos maintenant. C'est 1 million de dollars dépensés en ligne par des consommateurs à chaque minute. C'est 208 000 participations à des rencontres Zoom. C'est 52 000 rencontres visio avec Team. Pas visio, utilisateurs connectés avec Team. Alors, quand on vous dit que Zoom a vraiment raflé tous les outils de visioconférence dans un contexte de travail, on le voit, c'est assez clair. Netflix, c'est 404 000 heures de vidéos visionnées en une minute. Fait que vous multipliez la minute par 60, par vidéo, vous verrez combien de personnes connectées tout le temps à chaque minute. C'est 41,67 millions de messages échangés sur WhatsApp. C'est 347 000 stories postées sur Instagram. C'est 147 000 photos publiées sur Facebook. 150 000 messages partagés par les utilisateurs sur Facebook et TikTok, le petit dernier, 2704 téléchargements chaque minute. Ben, y a de la marge à prendre pour aller rejoindre Instagram, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup. C'est ce qui mettait fin à cet éclectique particulier. Comme je vous dis, je vais moins les peaufiner, parce que tout ce qui est peaufinage, je vais réserver ça à ReLife. Je vais faire plus ça à la mode de chez nous, plus vous partager mon quotidien, et je vais essayer de faire ça sur Twitch. La vidéo est enregistrée pour les abonnés Patreon, et c'est eux qui vont me dire si on peut aller là-dedans. Bref, s'ils pensent que c'est pertinent d'aller sur Twitch, moi je veux l'essayer. Je veux vraiment l'essayer d'aller diffuser ça sur Twitch et d'en faire un rendez-vous. Et à vous de me dire ce que vous en pensez. Bref, on se revoit. On se réécoute et on se revoit en septembre ou dans le milieu d'août. On va essayer de voir ce que ça peut donner avec les différents enregistrements et keynotes qui vont arriver d'Apple. Oubliez pas, partagez, aimez et apprenez. C'est les trois hashtags que je veux qu'on partage ensemble. Et je vous souhaite de très bonnes semaines de rentrée et rentrée des écoles aussi. Allez, ciao, ciao, bye bye.